Bonjour, l'équipe de la Bastille, j'y suis. Eh bien, voilà, c'est les fêtes de Noël. Et puis, voilà, moi, je viens d'avoir ma mère au téléphone. Elle fait partie de 64 personnes qui viennent d'être larguées du jour au lendemain par le groupe Altadis. Voilà, c'est sur deux dépôts, un sur Nice, un sur Bordeaux. On décide, comme ça, du jour au lendemain, de mettre les gens à la porte comme des malpropres. Et moi, ça me fait de la peine d'entendre ma mère pleurer aujourd'hui, voilà, à l'aube de sa retraite, quand tu t'es levé les fesses toute ta vie pour un boulot, et que jusqu'au dernier moment, eh bien, il n'y a pas de considération pour les gens qui bossent, voilà. Eh ben, ça fait mal au bout d'un moment, et tous ces gens, encore 60 personnes qui sont mis au chômage, où on propose des plans de reclassement qui sont juste là pour, des plans de reclassement qui n'en sont pas de véritables, où on veut du jour au lendemain envoyer les gens à l'autre bout de la France, voilà, sans aucune considération, voilà. Et puis, le fin du fin, c'est que dans tous ces plans de négociation, les employés en dernier recours, eh ben, ils sont pas maîtres du jeu. Il y a des négociations qui les dépassent entre les comités d'entreprise, les syndicats et la direction. Et au bout du compte, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne au niveau des primes de départ. Et toi, tu as qu'à fermer ta gueule. Voilà. Et ben voilà, un beau cadeau de Noël.
Ouais, salut Daniel, c'est Daniel à Paris. Eh bien, cher AMG, je me suis sacrifié pour vous. Je suis allé sur le site internet de l'UMP et j'ai lu en entier, si je dis bien en entier, le discours de Sarko et Charleville-Mézières. Alors tenez-vous bien, il n'y a pas que l'affaire des SDF qui vont disparaître en 2 ans et les bons pauvres qui travaillent sont à brûler de voitures qui l'intéressent. Figurez-vous qu'en prenant un exemple, les Ardennes, hein, je dis bien les Ardennes, il dit « Cette France qui veut vivre debout sur sa terre, je veux parler en son nom. » Autrement dit, reprend le vivre et travailler au pays. Mais il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Alors, je ne suis pas venu vous dire de prendre votre mal en patience ni de renoncer à tous les acquis sociaux pour affronter la concurrence de l'Inde et de la Chine. Je continue. Nous sommes confrontés à une forme insidieuse de capitulation sociale à laquelle la mondialisation et l'Europe servent d'alibi. Ailleurs, on ne peut pas continuer à détruire des milliers d'emplois, à amputer le pouvoir d'achat des millions de salariés avec une politique qui échappe, et c'est dans le texte ce que je vais vous dire, qui échappe à tout contrôle démocratique. Plus loin, vous connaissez ces fonds d'investissement qui ne rachètent des entreprises que pour se débarrasser d'un concurrent et qui, à la première occasion, délocalisent toute la production dans un pays où ils pourront tirer parti de tout leur dumping, etc., etc. Alors rassurez-vous, il y a aussi tout le reste sur l'immigration, la rémunération au mérite, les 35 heures qui sont la cause de tous les malheurs, finalement. C'est un peu comme le poumon chez Molière, ça. Les 35 heures, vous dis-je, les 35 heures. Bon, ceci étant dit, je comprends pas les journalistes, notamment économiques, qui reprennent pas les propos d'un fou furieux pareil. Mais qu'est-ce qu'il fait mon ami Jean-Marc Sylvestre, là? Ce matin, il s'en est encore pris à la gauche. Bon, peut-être que tout doit rester dans l'ordre, après tout, Allez, salut les jeunes.
Bonjour, je voudrais faire un appel pour manifester contre le gouvernement mexicain. Un gouvernement qui viole systématiquement les droits de l'homme, notamment ceux des indigènes. Dernièrement, c'est l'état de Oaxaca au sud du pays. C'est l'un des plus pauvres du Mexique. On a en marre des abus d'une petite classe bourgeoise, corrompue et qui n'a rien à foutre de la culture et de l'éducation, ni de la démocratie. Les rendez-vous est donc le vendredi 22 décembre à 18h30 à partir à Paris-Beaubourg pour marcher ensuite au consulat mexicain. Merci.
Oui, bonjour Daniel Mermet. Ton appel de ce mercredi 19 décembre qui s'adressait aux spécialistes de sondage et autres enquêtes statistiques n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je voulais simplement t'annoncer que le sujet de la fiabilité et de l'objectivité des sondages avait été débattu dernièrement lors d'un rendez-vous des AMG au Repère d'Aix-en-Provence. À la suite de cette soirée très instructive, afin de mettre en évidence qu'un sondage pouvait être manipulé ou être un moyen de manipulation, nous avons créé un nouvel institut de sondage dénommé l'œil du sage, dont la finalité et de faire ouvrir un œil critique et plein de sagesse sur les résultats de ces fameux sondages. Sur Internet, à l'adresse du forum www.taquinetfranceinter.com, tout en un seul mot, taquinet avec ER, nous avons mis un petit sondage pour justement évaluer la fiabilité et l'objectivité des sondages et auquel nous invitons le plus grand nombre à participer pour avoir des résultats fiables et objectifs, ou presque. Voilà, c'était tout. Soyez nombreux à voter pour l'Institut L'Œil du Sage. Merci.
Bonjour Daniel, tes émissions, elles sont toujours à tordre le cœur, mais alors celle d'aujourd'hui sur les heureux gagnants perdants de l'Euromillion, c'est le summum. Je peux plus l'écouter tellement ça me fait mal au cœur. Mais vous devriez la faire écouter aux responsables de l'Euromillion. Quand même, ils ont joué ces gens-là, et comme il n'y a pas d'autres gagnants et qui mériteraient quand même vraiment cet argent, peut-être que ça leur ferait un bon coup de pub quand même à l'Euromillion. Salut, c'est Elisabeth.
Oui, allô, c'est Raymond Moretti à l'appareil. J'ai écouté ton émission là sur ceux qui sont passés à côté des grands lotos là des plusieurs millions. Bah oui, à cause de pour 200 balles, tu vois. La fille elle a fait une grille moins chère, c'est complètement fou quoi. Moi, tu vois, je suis sûr de pas perdre ni de gagner parce que je joue jamais. Voilà, bah parce que qu'est-ce que tu veux? Bon bah j'ai juste le moyen de vivre, de subsister. Je suis presque SDF. Voilà, ben, je vis en Lorraine et c'est comme ça.
Oui, ben, c'est pas gai hein, ce que dit cet auditeur de Lorraine, mais je pense qu'aujourd'hui, il est encore moins gai que ça. Il est comme nous, il est triste, très triste. On est très triste pour TF1, très triste pour le groupe Bouygues, et notamment pour Martin Bouygues, qui viennent de perdre un gros client, un très gros client. Je veux parler de Zaparmourad Niazov. Zaparmourad Niazov, le président à vie du Turkménistan, vient de mourir. Il était, entre autres, un poète, en plus d'être un président à vie du Turkménistan, un écrivain qui avait écrit un livre, le Ruknama, qui était obligatoire. Tout le monde devait le lire et le relire et le savoir par cœur. Pourquoi? Eh bien parce que ce livre ouvrait la voie au paradis. Alors, il y a eu des mauvaises langues pour dire que Zaparmourad Niazov était un genre du burois, classé entre Ceausescu et Kim Jong-il. On a dit beaucoup de mal, on a dit que le Turkménistan de Niazov, c'était une des dictatures les plus dures du monde. C'est au moins ce que prétend un certain David Garcia, auteur d'un ouvrage intitulé « Le pays où Bouygues est roi » aux éditions Danger Public. Et oui, Bouygues était roi, est roi encore, souhaitons-le le plus longtemps possible, parce qu'il en va de notre fierté nationale et de notre économie et de notre croissance. Effectivement, le groupe Bouygues a fait d'énormes affaires au Turkménistan grâce à Niazov, Zaparmourad Niazov, qui était un ami personnel de Martin Bouygues. 95 milliards d'euros depuis 1995 pour construire palais, mosquées et autres constructions pharaoniques dans ce pays. Et on se souviendra, même si c'est impossible de trouver les documents aujourd'hui sur le net, de ce moment où en septembre 1996, lors d'une visite officielle de Monsieur Niazov, eh bien TF1 lui a consacré une émission, une vraie fausse émission. C'était en fait, effectivement, une émission entièrement bidon, comme on dit dans ce métier, mais à laquelle avons participé, qui était animé par de grands journalistes, à l'époque directeur de l'information, qui est Jean-Claude de Narcy, et puis il y avait autour du président Niazov, Patrick Lelay, Martin Bouygues, évidemment son ami. Cette émission n'a jamais été diffusée, elle était faite pour, évidemment, la propagande intérieure du pays. Voilà, c'est un document que vous ne trouverez pas ou que nous n'avons pas, nous, trouvé depuis ce matin, mais il est certain que c'est une nouvelle qui nous attriste tous. Et pour lutter un peu contre cette tristesse, on ne peut pas quand même rester ensemble jusqu'à 16 heures dans cet état-là. Alors on a pensé vous amuser un petit peu en vous racontant des histoires aujourd'hui, des belles histoires puisque le Père Noël va arriver et que voilà, c'est la fête des enfants. Alors on a concocté avec l'équipe de la Basse J'y suis des histoires pour vous les enfants et les anciens enfants, et ce sera après ce petit bouquet de messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse J'y suis au 01 56 40 37.
Ouais, salut tout le monde. En fait, je voulais signaler qu'une marche silencieuse est organisée à Alençon, dans l'Orne, le samedi 23 décembre à 15h, à la mémoire de Taoufik. Alors, Taoufik, c'est le jeune homme qui a été retrouvé mort à Nantes après s'être fait interpeller par 3 policiers. La responsabilité de ces 3 policiers est flagrante. Négation des faits, puis explication contradictoire et témoignage accablant à leur rencontre. Il faut que toute la vérité soit faite. Alors, pour exiger cela, venez nombreux samedi à Alençon. Rendez-vous à 15h, place de la Madeleine. C'est la grande place pavée en plein centre-ville, près de l'église Notre-Dame. Voilà, merci.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Moi, mon vœu pour Noël, j'aimerais que Paris soit une fête. Mais je n'ai pas les mots pour le dire. Claude, je le vois bien nous narrer un joli conte de Noël. Le timbre de sa voix me fait penser à Jean-Claude Chabrol. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, de bien belles histoires.
Flight number 2, arriving from...
Que lourde, flexueuse, felouquée sur la plage bleue de Trébizonde. Tout était roupeux dans le jardin, jarnifique, en chaise longuée à l'ombre des turlupes. Un tire-larigot attendait l'autobus assis sur une branche de balsamier. Et voici, pédalant dans ses baskets en or, la belle Lurette. La belle Lurette a exactement 3452 plumes. 3452 plumes et une guêpette rose qui dégoule sur son baragouin quand elle pionce dans sa boîte d'alouf. Et ça me rappelle le jour où elle se pointit. C'était le 32 octobre, un mardi-manche. J'étais en train d'arroser des carabes grimpants lorsque résonna le tintinabule strident de sa boîte d'alouf aéronélectrique. Elle se posa, l'œil sulfureux, la guibole flexueuse, le contraire d'une batifole. Elle s'extirpa de sa capsule et vint vers moi. ahurie, je la regardais qui piétinait un carré de peluches précoces que je venais de replanter. Elle me dit quelque chose, mais je ne compris pas. Alors, j'engageais le diphtong de mon Blue Bloomer pour avoir la traduction. Elle voulait me dire qu'elle était en panne de confetti. Elle me demandait si j'avais un bidon de secours. Je flairais le piège. Sa boîte d'alouf brillait. De petites billes de soleil et des larmes de nuit goutte à goutte mystère tranchement. Elle avait des yeux d'Aldébaran. Elle était vêtue d'un parfum de subjugue violet et je ne résiste pas au parfum de subjugue violet. Hélas, je n'avais pas de confetti. Mon arbre à confetti était bien trop jeune pour faire le plein. Alors, elle a passé la nuit chez moi. Elle avait des pieds de cassiopée et un ventre de désormais, et des yeux de toutim, et une bouche pour boire l'eau en prison. Après mûre réflexion, je lui dis « Vous êtes belle ?» Elle me dit « Je suis vivante. » Et le rose matin se hissa sur les coussins soleilleux de l'île du droit à la caresse. Quand je me suis réveillé, la belle Lurette était en train de découper des confettis dans le seul livre qui restait sur l'île du droit à la caresse, un dictionnaire, mon dictionnaire. Jamais j'arriverai à faire le plein, dit-elle. Ça tombe bien. J'ai plus envie de crapahuter, je vais me greffer ici. Moi, j'étais furieux à cause du dictionnaire. Te mouronne pas, dit la belle Lurette. Je vais te le refaire, ton dictionnaire. Ce qu'elle fit. Pendant des jours, elle a bricolé à la va comme je t'épouse. Et à la finale, mon dictionnaire n'avait plus les mots en face des trous. Ça faisait des mots nouveaux. Aglu, turlupe, exceptambre. Flexueux, agréable. Et tout le monde s'est pris au jeu. Tous les jours, on inventait des mots nouveaux. Et après, on inventait ce que ça voulait dire. Et ainsi, petit à petit, naquit le langage de l'île du droit à la caresse.
Thank you.
Quand ils ont vu ça, les orthographes ont furibondé méchamment. Les orthographes, qui sont les orthographes? Eh ben, c'est des flegmons à col dur, des riflards funéraires, des institutosaures, des gagadémiciens, des chipiatres curtons, des faux-culs, des empaillés, rien que du deuxième choix, qui ne badinent pas avec le pur langage. Et un beau matin, sur le coup de dompteur, dompteur et demi, ils attaquèrent. Des orthographes déboulaient. On a vu gonfler à l'horrible zon les gros bahuts trouillométriques. Dans le ciel, les chasseurs de fautes de français à réaction rasmotaient furibardement. Chirographaire, se demandaient les insulaires. On n'a que des caresses pour se défendre. Ils vont nous spongier, ils vont nous salpêtrier, ils vont nous composter, nous faire faire des dictées. Mais la belle lurette se marrait tranquille en solimant les griffes avec une lime à épaissir. Argueux, les orthographes grouillaient à deux pas. Ils expansaient et on pouvait bouliter leurs sourdoises têtes de morve serrées dans la subsidiaire. Leurs barboteuses kaki, leurs variqueuses gambettes et le canon de leur vocabulaire bazookant nos belles coquelourdes flexieuses. Mais alors, en s'hilarant la poire, la belle lurette ouvrit sa boîte d'alouf à héros néné. Et il en sortit des centaines et des centaines de trilliards d'agglus bourdonnants qui se précipitèrent en vol du bourdon sur les orthographes pétrifiés. Les malheureuses bires essayaient de tirer la rigotée, mais rien à faire. Les agglus bourdonnants étaient plus mal à barre. Ça 14 juilletait, ça feu d'artificier, et nous, on trépignait en se ponçant la calandre. Les orthographes débandadèrent à la nage et beaucoup bulbulèrent dans un océan d'indifférence. Silence est retombé sur les coussins soleilleux de l'île du droit à la caresse. Désormais, ça sent le minou fleureux, la praline en délire, l'amour des pas grand-chose, la frite marginale et le jasmin. Et depuis ce jour, l'île du droit à la caresse est devenue un vrai paradis foimeux, plénard et roupeux. Et dans les herbes bleues de nuit, on voit briller des corps usés par tant de mains.
El justiciero, yo soy pobre, que paga lo que debes. El justiciero, cha, cha, cha. Y otra cosa puedo dar. El justiciero, cha, cha, cha. Y otra cosa puedo dar. El justiciero. Yo tengo 30 hijos con hambre. La guerra mi ha estrupato tanto bene. Socorro il giustiziero, aiutami por favor. El giustiziero, buenos días, ¿qué tienes a decir? El giustiziero, yo soy pobre, ¿qué tienes a me dar? Bésame. Cuando caliente el sol, el justiciero, cha, cha, cha. ¿Qué otra cosa puedo dar? El justiciero, cha, cha, cha. ¿Qué otra cosa puedo dar?
Les sondages immédiats que nous avons les moyens de faire, vous le savez. 47% des auditeurs de la basse, si j'y suis, pensent que nous sommes en train d'entendre le cabinet d'un dentiste. Et 38% pensent qu'il s'agit d'un tueur en série en pleine action. Et le reste des auditeurs de la basse, si j'y suis, sont sans opinion. Ce genre de petit jeu, on s'y amusait il y a une vingtaine d'années. Je faisais une série avec Adèle, que vous entendez le nom souvent, qui est une réalisatrice bien aimée et très talentueuse de France Inter. Et on faisait, il y a exactement 20 ans, une émission qui s'est un peu plus... Oui, 20 ans, qui s'appelait « Chair de poule ». Et tous les après-midi, il s'agissait de vous faire peur. Et voilà, et on y était arrivé pas si mal que ça avec une série qui s'appelait « Ugly ». Ugly, c'était un personnage qui revenait toutes les semaines à peu près quand j'avais réussi à finir d'écrire l'histoire. Et voilà, ça a été une petite série à l'intérieur d'une série d'une histoire épouvantable, horrible, qui donnait la chair de poule tous les jours. Et il y avait ce personnage qui s'appelait Ugly. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on a refait une version d'un des chapitres de Ugly qu'on va entendre maintenant, interprété par Adèle. Et auparavant, l'histoire de l'île du droit à la caresse. Alors ça, c'est une histoire que j'ai écrite il y a exactement 30 ans. Et oui, 30 ans. Là, j'ai commencé à causer dans le poste en racontant des histoires pour les petits-enfants sur France Culture, grâce à un monsieur qui s'appelait Pierre Descargues. Et voilà, j'ai raconté des centaines. Voilà. Plusieurs centaines d'histoires pour les petits-enfants. Ensuite, à l'oreille en coin, il y avait entre autres l'île du droit à la caresse qui, à l'époque, avait beaucoup choqué les enseignants, etc. Et on en a fait un livre qui est sorti il y a quelques mois aux éditions Panama, qui s'appelle « L'île du droit à la caresse ». C'est un livre inter. Et puis, Ugly, maintenant, interprété par Adèle. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
J'ai pu le fourrer. J'avais une envie de me broyer dans le noir. Détresse dans les cheveux. J'attendais le hasard. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants. J'ai crié, j'ai rien fait avant d'être assommée. Je me suis réveillée debout et enchaînée. Je ne pouvais bouger et les trois hommes riaient sur leur visage grêlé. Beaucoup de nuages de lait, ils ont déchiqueté mon pull vert orange. Nous les hindous on est, toi tu seras le Gange. Ils m'ont dit que les canards c'était des signes d'état. Ils voulaient que je me marre, mais c'était pas marrant. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants. Ils m'ont déshabillé, j'étais comme un enfant. Nu comme dans l'été, quand je nage dans l'étang. Et ils m'ont caressé tout mon corps en bavant. Comme quand papa changeait mes couches tant d'enfants. Et ils m'ont demandé si ça me gênait pas. De plaisir je n'avais, mais ça ne me gênait pas. Je n'ai pas osé leur dire, ils se seraient moqués de moi. Voulaient me faire plaisir, mais n'y arrivaient pas. Je leur ai juste dit tout bas, ils se sont mis tout nus. Ça ne m'impressionnait pas, j'en avais déjà vu. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants. Y en avait un qui était tout chauve et maigrelet. J'ai pleuré car c'était comme un mort. Ses organes génitaux, moi je les conservais dans de jolis bocaux. Le soir quand je m'endormais, seule je les regardais. Ma maman éléguait, voilà ce qu'en restait. Alors moi je pleurais et mon pouce je têtais. Ainsi ce maigre et laid, ce garçon m'attristait. Et c'est avec pitié que j'ai tout accepté. Ils m'ont désenchaîné et m'ont laissé par terre. Les rois m'avaient tiré, mais la fête fut amère. Et si je fais l'amour, Fanny, ça fait plaisir aux enfants. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants.
Je suis toute seule. J'ai 13 ans et les vers de terre recouvrent tout, même les fenêtres. Je les sens qui grouillent sur mes jambes, partout. Ils vont me remplir la bouche et me boucher les yeux. Comme ça, ça fera comme de la nuit. À Singapour, il suffit de respirer pour être heureux. On va partir là-bas, Ugly, tu verras. Où l'eau jouera du piano et tu feras danser le petit rat. Pleure pas, petit frère. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, elle dit maman. Je l'entends qui n'arrête pas de répéter ça jour et nuit. Dans le noir près de moi, Ugly a pris le cadre avec la photo de notre chère mamie pour lui faire des bisous. La photo est pleine de verre et avec ses bisous, Ugly en avale plein. Au moins comme ça, il mange un peu, lui qui est si difficile. Ça ferait plaisir à maman si elle comprenait. Mais je l'entends par terre en train de lécher son vomi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Quand j'y repense, c'était bien regrettable que mamie de Villemomble n'était pas là pour ce joyeux Noël, surtout la bûche au chocolat, elle qui l'aimait tant. Mais il fallait bien l'enterrer puisqu'elle était morte. Et il fallait aussi réparer la maison que le feu avait ravagée. Alors, papa et maman eut la bonne idée que notre cher Ugly et moi en irait chez Tonton Starsky pour Noël à Créteil-Val-de-Marne. Tonton et Tata Starsky, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ce qui est bien malheureux au sein d'un jeune foyer moderne. Comme ça, il a dit papa, ils connaîtront un peu quelque part la belle joie d'un Noël en famille. Mais Ugly était triste de partir à cause de Houlot, qui ne savait pas quel était son amour. Il ne pouvait pas la voir à la fenêtre et lui montrer mon beau poisson rouge qu'il avait pêché pour elle avec la fourchette à fondue savoyarde. Houlot, Houlot, il répétait doucement Ugly dans la voiture avec ses yeux de quand il est malheureux. Ça coulait sur ma main qu'il tenait dans sa main, mais j'avais pas envie de l'enlever malgré son odeur de vieille viande. Houlot, Houlot. Pour le consoler, je lui ai dit que chez Tonton Starsky, on verra le Père Noël. Et c'était vrai. C'est même moi qui l'ai vu la première dans la Sainte Nuit de Noël. Même qu'il dormait, il ronflait pas, il dormait sur le canapé de Tata, près du beau sapin, avec sa capuche rouge rabattue sur la tête. Si bien qu'on voyait pas son visage jovial, mais juste un bout de sa barbe blanche avec l'élastique. C'était joli! Vous vous demandez comment je l'ai vu comme ça en pleine nuit que tout le monde dormait? C'est à cause du gros bruit qui m'a réveillée. Boum! Alors, je me suis assise dans mon lit dans le noir et j'ai réalisé dans ma tête que c'était la nuit de Noël. Et j'ai eu envie très fort d'aller voir s'il y avait déjà quelque chose dans mes baskets. J'ai eu envie très très fort. Je me suis levée, j'ai marché dans le couloir sans allumer tout doucement avec seulement le bruit de mon sang dans mon cou. Et soudain, dans le salon, j'ai vu le Père Noël qui dormait, ce qui n'est pas courant. Bonjour! J'ai entendu une voix derrière moi. « Bonjour !» C'était une boîte en carton, en or. « Je m'appelle Magica. Je m'appelle Magica et je suis ton amie. » J'étais contente. Quelle ravissante poupée. « Je m'appelle Magica, je m'appelle Magica, je m'appelle Magica. »
Chut, j'ai dit. Il y a le Père Noël qui dort, il faut pas faire de
Magica me souriait.
Écoutez, j'ai dit,
je lui disais fou. On va attendre qu'il se réveille et on lui demandera si c'est vrai qu'il n'existe pas. C'est ce qu'on a fait. On s'est assise dans le fauteuil de tonton pour le foutre à la télé et on a admiré les lumières clignotantes et féeriques dans le sapin. C'était joli. Et alors, j'ai vu tous ces bouts de viande crue. C'était comme plein de petits tas de viande hachée. Il y en avait partout sur le sapin, sur les guirlandes, sur le mur. Et moi, j'aime pas la viande. Tata Starsky veut toujours m'en faire manger à cause du sang qui fortifie. Mais alors là, du sang, j'étais servie. Il y en avait jusqu'au plafond, jusque dans la chaussure à Ugly. Oui, je sais bien, Ugly n'a pas besoin de chaussures parce qu'il n'a pas de jambes. Mais c'était Noël. Et pourquoi ne pas croire au miracle, comme dit papa, lorsque l'amour et la science sont au rendez-vous? En attendant, tata et tonton n'allaient pas être contents en voyant leur belle maison pleine de sang et de viande. J'avais peur d'avoir vu tout ça alors que tonton et tata dormaient et Ugly aussi qui était attaché dans la chaufferie. Et qu'est-ce qu'il va dire le Père Noël en se réveillant quand il verra tout ce chantier et que j'ai pris Magica? On est retournés dans ma chambre toutes les deux sans bruit. On a essayé de dormir, mais moi, les bouts de viande, ça m'empêchait. Alors j'ai parlé avec Magica, je lui ai dit que j'avais un papa, une maman et un frère. Et qu'est-ce qu'il va lui apporter le Père Noël à ton frère? Elle a demandé Magica la poupée. Ah, oh, j'avais même pas remarqué s'il y avait un cadeau dans la chaussure de Ugly. Ça alors, peut-être que tonton a oublié de dire au Père Noël que Ugly est là. C'est que tonton, il est très occupé comme travail. Même des fois la nuit, il part en vitesse quand la voiture arrive avec ses freins et sa grosse lumière bleue qui fait tourner les volets sur le plafond parce qu'il faut que tonton se dépêche d'aller tuer les terroristes. Oui, j'ai dit à Magica, car tonton Starsky, il est flic de police, même s'il n'a pas de képi. Tonton, c'est un flic qui s'est déguisé en n'importe qui. Mes copines, elles croient que ça se peut pas, mais moi, j'ai vu son 357 Magnum. Comment tu l'as vu? Elle dit Magica. Parce qu'hier, Ugly, il a voulu me tuer. Je me rendais au water quand Ugly a surgi avec un gros revolver. Je lui ai dit qu'il me laisse passer, car c'était pressé. Si jamais tu me tues, je vais te cafeter et tu iras pas à la télé dans l'émission de Star Academy. Ugly faisait sa bave avec des grosses bulles et moi j'en menais pas large. Mais alors, Tata Starsky est arrivé derrière lui sans bruit. Moi je la voyais, mais lui non, tellement il allait me tuer. Tata lui a sauté dessus, mais boum! La balle a fait un gros trou brûlé dans la porte des water où se trouvait tonton Starsky avec l'amant de Marguerite Duras. Qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a fait tonton en remettant son pantalon d'une main en tirant la chasse d'eau de l'autre. Que se passe-t-il? Tata hurlait par terre, toute blanche. Calme-toi, Françoise, nom de Dieu, il disait tonton. Il a enlevé chaque doigt de Tata qui serrait le revolver et l'a rangé dans sa poche sous son bras avec les petites bretelles en cuir. Ugly, lui, il regardait un clou dans le mur. Tonton, le soir à table, il a dit à Ugly, « T'es grand maintenant, je vais te parler, mon grand bonhomme. Et toi, fils de coucher, il m'a dit nom de Dieu, parce que j'avais recraché toute la bonne viande dans mon assiette. Mais je suis même pas allée me coucher. J'ai écouté derrière la porte de la cuisine. Tonton, il a expliqué à Ugly qu'il y a des messieurs très méchants qui tuent des gentilles grand-mères en leur enfonçant des sorpillères dans la bouche, comme supposons Mamie de Villemomble. Bon d'accord, elle est déjà morte, mais supposons. Alors, il faut bien que quelqu'un les attrape avec un revolver, les assassins. Et voilà, c'est tonton Skarski qui fait ça. C'est pour ça qu'il faut jamais fouiller dans les affaires de tonton. Il faut promettre, sinon ça fera de la peine au petit Jésus et Papa Noël n'apportera pas de joujou à Ugly. Il faut arrêter de faire tout le temps des bêtises, comme la fois que tu avais fait éclater la tête du petit chien Rocky en le lançant sur le mur du garage et que tu lui as enlevé les yeux avec le casse-noisette. C'était pas gentil. Ça a beaucoup fait pleurer Tata, c'est pardonné, mais quand même. Mais alors, il a dit tonton, mais alors, si Ugly est très gentil, mais alors, très, très gentil. Eh ben, le Père Noël apportera un beau revolver comme tonton. Et comme ça, si une nuit, mettons que tonton serait parti et que, mettons, il y aurait des voleurs dans la maison pour tuer Tata et ta petite sœur, eh ben, c'est Ugly avec son revolver qui chassera les méchants voleurs. D'accord? Tu me promets. D'accord, hein? Et maintenant, va te coucher, embrasse Tata. Tonton va venir t'attacher avec les chaînes dans la chaufferie. Et voilà tout ce que j'ai raconté à Magica. On avait parlé tellement que je ne me suis même pas aperçue que le téléphone sonnait et que personne ne le décrochait. Le téléphone faisait son bruit de quand c'est les copains de police de Tonton qui l'appellent pour venir le chercher avec la lumière bleue. Le téléphone s'est enfin arrêté. Il y avait plein de silence. Je serrais très fort ma nouvelle amie. Ça a été long. Et la voiture est arrivée avec ses freins. Les types ont sonné et ont cogné sur la porte. Police, ouvrez! Il rigolait. Mais après, il rigolait plus. Ils sont entrés dans la maison. Il y en a un qui a dit un gros mot et l'autre qui l'a répété. Après ça, il faisait plus de bruit. Il marchait juste un peu. Moi, je faisais semblant de dormir, mais j'ai entendu quand ils ont tourné la poignée de ma chambre. J'ai fermé mes yeux fort. Il y a un monsieur flic qui a dit qu'il allait emmener la petite. Il faut pas qu'elle voie ça. Réveille-toi, il a dit l'autre flic. Réveille-toi, mon petit. Il faisait une voix gentille tout bas, qui sentait le whisky comme maman. Il m'a dit qu'on allait partir tous les deux. Il a rien dit pour Magica, mais il m'a dit surtout de pas regarder quand on allait traverser le séjour. J'aurais bien voulu, mais j'ai quand même regardé. Il y avait plein d'autres flics dans le séjour autour du Père Noël qui dormait. Sauf qu'il dormait pas. Mais que c'était pas le Père Noël. C'était tonton Starsky. Heureusement qu'il a une moustache, sinon je l'aurais pas reconnu, mon tonton. Toute sa figure, c'était comme du steak tartare avec deux gros oignons blancs qui pendaient. Et c'était ses yeux. Tata riait. Elle sortait sa grosse langue blanche et ses yeux tournaient dans tous les sens. Deux flics la tenaient pour qu'elle arrête de gigoter comme ça. Mais vite, le monsieur m'a emmené et on est monté dans la voiture et personne n'a rien dit pour Magica. La voiture roulait et le bonhomme parlait tout seul. Nom de Dieu, mais comment ça a pu arriver? Moi, je le savais, mais je lui ai pas dit. Je savais bien que Ugly ne dormait pas dans la chaufferie. Je savais bien qu'il avait cassé ses chaînes. Je savais bien qu'il avait rampé dans le noir pour voir son cadeau de Noël dans son petit soulier et qu'il a trouvé son joli revolver et qu'il est allé tout de suite voir si c'était vraiment comme celui de tonton qui était caché dans la cachette secrète et que c'était exactement le même. Et il était content, Ugly, juste au moment où il a entendu un bruit dans la maison. C'était des terroristes qui venaient tuer tout le monde dans cette douce nuit, s'est dit. Alors, il a visé exactement comme lui avait fait voir son gentil tonton. Sauf que c'était le revolver de tonton et que c'était tonton qu'il visait. Oui, c'était tonton qui avait eu la bonne idée de la rouge aux plantes avec la barbe blanche, tout déguisé pour nous faire une surprise sympa, lui qui n'avait pas d'enfant. Oui, oui, moi je sais tout ça. C'est Magica qui m'a tout raconté. Elle a tout vu de sa boîte en carton en or. Le bonhomme dans la voiture s'est mis à se taire, mais je lui ai quand même souhaité joyeux Noël.
Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est toi qui gueule comme ça, petit? On dirait que t'es pas au courant de ce qu'attendent les méchants enfants quand leurs parents appellent au secours sans perdre un instant et la cour. Maintenant tu ferais mieux de te taire et de te planquer six pieds sous terre. Il vient de carrer son camion, là juste en face de ta maison. Et voilà qu'il approche sans bruit dans son immense manteau de nuit.
Elles sont bien les histoires pour enfants sur France Inter. Hein. Eh ben bravo. Merci en tout cas, merci à Adèle. Ugly, ça c'est un chapitre d'Ugly que Adèle nous a interprété, mais il y en a d'autres, des histoires comme ça, dans un livre de poche que vous pouvez toujours trouver, je pense, aux éditions du Seuil, qui s'appelle Ugly, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis, l'île du droit à la caresse, la première histoire qu'on a adaptée aujourd'hui en direct. Bien ça, c'est édité aux éditions Panama, c'est un livre inter avec de splendidissimes illustrations d'Henri Galeron et une mise en page, une réalisation de ce bouquin de l'ami Patrick Couratin. Voilà, la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Aurélie Fortin, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, modeste et géniale bien évidemment, assisté de Pascal Le Pascarillo et de Christophe Imbert qui se tient près du répondeur avec ses grandes oreilles, prêt à entendre vos protestations, admirations, mots d'amour, coups de gueule et coups de cœur au 01 56 40 37 37. Et puis, on est toujours à la recherche de témoignages. On en a déjà pas mal. C'est très intéressant. Témoignages de sondeurs et d'enquêteurs qui enquêtent et qui sondent pour des sondages d'opinion. Ce qui nous intéresse plus, c'est les sondages d'opinion, politique et surtout médiamétrie. Si vous êtes sondeur, enquêteur, si vous avez travaillé dans ces domaines-là, ou si vous travaillez actuellement dans ces domaines-là, vos témoignages nous intéressent. Si vous êtes analyste, comme on dit, ou préparateur, ou rédacteur de questionnaires, c'est très très intéressant, tout ça nous intéresse beaucoup, eh bien vous avez le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, pour nous le faire savoir. Et puis, n'oubliez pas, les repères de là-bas, si j'y suis, ça marche. On en est à près d'une soixantaine à travers tout le pays. Et ça se réunit en principe au début de chaque mois. C'est assez curieux d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça s'est fixé. L'année prochaine, on ira se balader un peu plus dans les repères à droite et à gauche, aux quatre coins de l'Hexagone, pour voir un peu comment ça se passe. Et on demandera aux auditeurs, aux AMG, des repères. Peut-être de nous brancher sur les régions, sur les endroits, comme ça, ce qui se passe. Essayer d'aller à la rencontre de cette France profonde et de ces Français tellement invisibles. Il va être, 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Claire Servageant. Salut!